Regard chrétien sur le monde.
Le débat sur la laïcité ressurgit régulièrement sur la scène publique en France. Voile islamique ou financement des lieux de culte, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État suscite toujours de grands débats. Après le centenaire de la loi célébré l'an dernier, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a de nouveau relancé le débat récemment lors de la présentation des résultats de la commission Machelon, une commission créée en octobre 2005 et composée d'une quinzaine de spécialistes du droit et des cultes, présidée par le juriste Jean-Pierre Machelon, professeur de droit public à l'université Descartes Paris 5. Parmi les propositions émises dans ce rapport Machelon figure celle que les communes puissent financer la construction d'églises, de mosquées, de synagogues et temples, ce qui était jusqu'alors interdit. Pour mieux comprendre les enjeux de ce rapport, dont les conclusions sont indissociables du débat général sur la laïcité en France, nous avons recueilli l'analyse de René Raymond, intellectuel chrétien, président de la Fondation nationale des sciences politiques et membre de l'Académie française.
Le problème vient en fait de la présence de l'islam en France et la prise de conscience qu'il y a un décalage entre les différentes confessions en France. Or, la loi de séparation, dans le premier de ses articles, dit que la République garantit le libre exercice des cultes. Or, en fait, l'absence de patrimoine immobilier pour l'islam crée une disparité. Et en beaucoup de lieux, les municipalités sont préoccupées d'assurer des conditions minimales pour l'exercice du culte. Alors jusqu'à présent, on recourt à des subterfuges. Alors on cherche maintenant comment, en somme, ajuster, réparer le décalage qui fait que les églises traditionnelles disposent d'un patrimoine important qui leur permet de célébrer le culte dans des conditions qui sont convenables, alors qu'en fait, l'islam, faute de terrain, de bâtiments, d'édifices ou de ressources, on est réduit à célébrer dans les caves et les garages.
L'origine du débat actuel réside donc dans le fait qu'en 1905, lorsque la loi sur la laïcité est votée, la religion majoritaire était le catholicisme. En voulant de nouveau réformer la loi sur la laïcité, on peut se demander si l'État français n'est pas en train de s'ingérer dans les problèmes strictement religieux.
Il ne s'ingère pas, il assure les conditions de la liberté du culte. La loi lui en fait obligation. Il faut rappeler cet article premier, qui n'est pas celui le plus souvent cité, parce que généralement on cite le second, où l'on dit que la République ne reconnaît aucun culte. Ce qui d'ailleurs n'est pas absolument vrai, puisque dans l'article premier, la loi fait obligation à l'État non seulement d'assurer la liberté de conscience, ce qui n'est pas de question, mais de garantir le libre exercice des cultes. Et dans beaucoup de domaines, l'État ou les pouvoirs publics ou l'État central ou les collégiés éditoriales interviennent pour assurer ces conditions. Un exemple tout différent, l'audiovisuel. Si aujourd'hui, sur les chaînes publiques de télévision et sur les stations publiques de la radio, il y a des émissions religieuses, c'est l'État qui les impose à la radio et à la télévision parce qu'il estime que c'est la façon de garantir le libre exercice du culte pour toutes les personnes qui sont empêchées par l'âge ou retenues par des problèmes de santé chez eux, dès lors qu'il y a des moyens techniques qui permettent de suivre ou de participer à un office, la puissance publique est tenue d'en assurer l'exercice. Par conséquent, on n'intervient pas dans la vie interne, il n'y a pas d'ingérence à proprement parler. On assure les conditions minimales externes pour que le culte puisse être assuré à tous et assurer le libre accès dans une perspective d'égalité entre les personnes et de respect de la liberté du culte.
C'est parfois le texte même de la loi 1905 qui pose problème, donc. On pourrait en effet voir une contradiction entre l'article 1 qui stipule que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes et l'article 2 qui décrète que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Brusquement, la demande explicite ou implicite que constitue l'islam et aussi les sectes et les évangéliques fait apparaître qu'il y a entre les deux articles, les deux premiers articles, les articles de principe de la loi de séparation, une certaine contradiction. En fait, il y a équivoque sur le mot reconnaître. Le législateur, quand il a lu ce mot en 1905, Il raisonne par rapport à l'expérience où l'État accorde un statut privilégié à un culte par le biais du concordat ou des lois organiques. Par conséquent, il n'y aura plus désormais un statut particulier pour une église ou une religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il les ignore. Or, aujourd'hui, il y a eu un glissement de sens qui fait que lorsque nous lisons rapidement, un peu distraitement, cette loi de 1905, on pense, il ne reconnaît aucun, par conséquent, il ne doit pas connaître l'existence des cultes, pas avoir de rapport. C'est pas vrai du tout. La loi de séparation n'ignore pas, elle supprime les rapports, les relations juridiques. Mais l'État ne peut pas ignorer qu'il y a un fait religieux, qu'il a une dimension sociale, qu'il fait partie du paysage collectif, et il est obligé de le régler.
Cette loi de 1905 a donc évolué au fil des années, et ce, pour mieux s'adapter à la société. On compte déjà 13 modifications de la loi. Quelles pourraient être les futures évolutions ? Écoutez l'analyse de René Raymond.
Le problème de la laïcité concerne en fait tous les secteurs. Le secteur scolaire, j'évoquais l'audiovisuel. Il y a dans quantité de domaines, la loi ou les initiatives gouvernementales ont improvisé des solutions. Chaque fois qu'a surgi un problème concret, on a trouvé une réponse appropriée. Et on aurait pu rêver que l'ensemble de ces dispositions, qui est considérable, la jurisprudence d'un siècle représente des centaines de pages, et que par conséquent, on rassemble tout cela dans un texte qui proposerait de la laïcité une image véridique. Il y a eu toute une évolution pragmatique, intelligente, ingénieuse, dictée par le souci de la concorde, de régler les problèmes. C'est ça l'essentiel. Mais c'est pas très visible. Et on en reste à quelques textes. Et encore, il y a encore aujourd'hui des esprits pour s'imaginer que la laïcité exclut qu'il puisse y avoir le moindre rapport et la moindre relation entre les pouvoirs publics et l'Église. La pratique est toute différente. Vous voyez, depuis quelques années, chaque année, le Premier ministre, assisté de quelques-uns de ses ministres, reçoit la présidente de la conférence épiscopale, accompagnée du nonce, pour examiner ensemble les problèmes communs. Par conséquent, nous vivons sous un régime qui n'est plus celui du concordat, sauf l'Alsace et la Moselle, mais qui n'est pas du tout celui de la séparation complète. C'est celui de la distinction, de l'indépendance réciproque.
Alors pourquoi tant de passion, tant d'inquiétudes, de débats autour de cette loi ? Pourquoi le rapport Machelon, qui cherche à aménager les procédures de financement des lieux de culte, suscite-t-il de nouveau une levée de boucliers ?
Il faut bien dire que la dérive d'autres religions vers une interprétation fondamentaliste contribue à accréditer la crainte que la religion ne remette en cause la paix civile. Il n'y a pas de doute que de ce point de vue-là, la révolution fondamentaliste en Iran, l'évolution d'une partie de l'islam apporte à des secteurs de l'opinion une confirmation de leurs craintes. Et par quelque sorte, réveille un état d'esprit défensif qui essaye, au fond, de tenir le religieux en surveillance.
Merci à René Raymond, président de la Fondation nationale des sciences politiques et membre de l'Académie française. Merci également à Xavier Sartre qui a recueilli ses propos.